depuis pas si récemment que là où on peut combattre les caméras à d'autres endroits, bah en fait c'est aussi des preuves parfois accablantes, rarement suffisantes pour un petit peu lever l'impunité policière. Du coup, juste pour terminer sur cette histoire d'affaire Théo, c'est pour dire que il y a l'affaire Théo, il y a eu là ce qui est intéressant dans l'histoire de Théo, c'est qu'il correspond vraiment à plein d'autres histoires qui, elles, sont pas médiatisées de la même manière. Mais ça correspond et ça vient raconter cette réalité-là. Parce que d'autres affaires qui ont été médiatisées, ça a pu être aussi la mort de Rémi Fraisse, ou d'autres blessés mutilés de la police, qui, parce que ça correspond pour le pouvoir à des figures qui, eux, les intéressent et qui viennent pas tant remettre en cause les pratiques policières quotidiennes, peuvent être médiatisées. Et du coup, c'est important d'utiliser toutes ces histoires-là pour rappeler, oui, il y a des Rémi Fraisse, oui, il y a des Théo, mais en fait, c'est tous les jours. Et c'est pas la plupart du temps des Blancs étudiants et écologistes. La plupart du temps, c'est des Arabes ou des Noirs dans les cités, quoi.
Encore une fois, par rapport à ce que je parlais du fait d'assimiler le risque pour les jeunes basanés des milieux populaires, j'ai entendu sur une autre radio un jeune dire, en fait c'est pour rebondir sur cet article dont tu parlais et qui parlait du bon noir, et on ne sait pas exactement ce que disait l'article sur cette idée du bon noir, mais ça aussi, cette même idée absolument hyper raciste et terrible, j'ai l'impression qu'elle est aussi un peu assimilée, dans la mesure où j'ai entendu un témoignage d'un jeune du même quartier que Théo, qui disait « Moi, à la rigueur, pourquoi pas ?» Mais lui, je comprends pas. Et c'était vraiment terrible d'entendre, de l'entendre dire un truc comme ça, quoi.
Là, ce que disait l'article de Libération là-dessus, c'était « là n'est pas la question ». C'est pas la question de savoir, comme tu l'as dit tout à l'heure sur l'introduction, et de savoir s'il était en train de voler une voiture, s'il avait consommé de la drogue, du cannabis, de l'alcool, je sais pas quoi avant. En fait, là n'est pas la question. À un moment, il y a des actes policiers qui tuent sans aucune raison valable. Et tout l'enjeu, ça aussi, c'est.
Et même, la peine de mort n'existe plus en France, donc. Aucune raison n'est valable, oui, c'est ça.
Aucune raison n'est valable, et c'est bien une manipulation que de porter le discrédit sur les personnes qui sont des victimes. Et là, on a un renversement en fait, des rôles. Là où il y a le policier qui tire devient la victime, et la victime surtout devient le coupable.
Il s'appelle Théo Louaka. Voilà,
merci.
Il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est que donc il y a des affaires qui défraient la chronique, donc l'affaire de Théo Louaka, celle de Rémi Fraisse pour d'autres réalités sociales, et là-dessus beaucoup de gens dans les médias, on parle de violence policière, et ce que moi j'ai compris et lu récemment, c'est que parler de ça, quand on parle de violence policière à cet endroit-là, donc là l'affaire d'un viol dans un quartier populaire ou d'un manifestant qui tomberait sous une grenade de désencerclement,
parler de violence... C'est le cas de Rémi Fraisse, on parle de Rémi Fraisse, donc manifestant sur la ZAD de Sivens qui est tombé sous les balles de désencerclement de la police.
Et du coup, parler de violence policière juste à cet endroit-là, c'est ne pas parler du reste. Et c'est le reste qui est violent, c'est le fait qu'il y ait des contrôles d'identité répétés au faciès, tous les jours, plusieurs fois pour la même personne, en tout cas des dizaines de fois dans une vie quand on est issu de ces quartiers-là, ce sont le tutoiement, ce sont les pratiques en fait policières quotidiennes,
les insultes.
Qui sont violentes aussi. Et donc là, c'est là que moi ça m'intéressait comme propos, c'est je le reprends de Geoffroy de Laganerie, c'est un philosophe sociologue de la Sorbonne, qui dit ce sont pas des violences policières qu'il faut condamner, c'est un ordre policier qu'il faut critiquer et faire tomber pour le coup. C'est plus dur, mais en tout cas il faut arrêter de juste voir le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire les affaires qui défraient la chronique. C'est tout ce qui se passe tous les jours.
Ce qui paraît excessivement complexe dans cette situation, c'est que cet ordre policier, il ne marche pas tout seul. Il va avec une politique de la ville, il va avec une politique économique, il va avec des politiques éducatives, il va avec énormément de choses. et qu'il est que qu'un certain côté, que le côté manifestement violent d'un système qui est institué comme violent et discriminant depuis pas mal de décennies.
Alors c'est peut-être ce terme que recouvre dans l'appel l'AOGRA, qui est dans l'appel pour la marche.
C'est quoi l'AOGRA ?
Et alors l'AOGRA, ça signifie le mépris, la haine arbitraire en arabe. Et je pense que c'est du coup exactement ce qui se vit au quotidien. Et effectivement, les appels au calme après des pareils crimes, en fait, ils paraissent un petit peu... on nous en fait tout un tapage de ça, et je pense qu'on réalise pas en fait cette réalité au quotidien. On se dit en fait ça semble être l'émeute dans les quartiers à ce moment-là semble être la seule réponse compréhensible en fait, et c'est celle-là qui est discréditée encore une fois dans les médias aussi.
Après ce que tu disais aussi, c'est que ça fonctionne avec les médias principalement, et puis avec la justice, il n'y a pas d'ordre policier sans une impunité, et que peut-être c'est l'occasion de citer 2-3 chiffres qui illustrent cette impunité-là.
Là, on se réfère à un ouvrage si vous avez le loisir de le trouver, s'appelle « Permis de tuer », on expliquera d'où vient cette expression aux éditions Syleps, « Chronique de l'impunité policière ». Et là-dedans, on lit que, en fait... pour donc un policier qui serait pris dans une enquête, il y a 50% des affaires qui se soldent par une impunité complète. Donc là, on parle de personnes qui seraient tuées entre les mains de la police, que ce soit par balle, par abandon, par clé d'étranglement, etc. Donc dans 50% des affaires, il y a impunité complète. C'est-à-dire qu'il y a non-lieu, relax, fin d'enquête, fermez le banc. Donc plus de la moitié des affaires, il n'y a pas aucune poursuite, impunité complète. Dans 40% des affaires, il y a des peines, mais des peines avec sursis, en fait. Donc c'est, si ça recommence, c'est quelques années de prison à sursis ou interdiction d'exercer, enfin non pas d'exercer, mais de porter un arme, etc. Donc des peines symboliques. Et on a donc, je finis, on n'a que 5% des affaires qui se soldent avec des condamnations fermes. Donc là, de la prison ferme. Donc il n'y a qu'une affaire sur 20 qui se solde par une justice. Alors après, moi, je ne vais pas me prononcer sur est-ce que c'est juste ça, mais en tout cas, où il y a effectivement reconnaissance de la culpabilité avec une forme de punition.
Voilà. Et Fifi, aurais-tu par exemple un exemple un exemple autour de ce 1% là
Est-ce qu'on a des exemples de quelqu'un qui soit condamné récemment à de la prison ferme?
Quel genre de cas s'est soldé? Alors aussi, je me disais, voilà, l'impunité, j'ai cru comprendre par rapport aux nombreuses affaires récentes où effectivement les familles peut-être osent de plus en plus porter plainte. Par exemple, j'ai eu l'impression que le tribunal de Bobigny était peut-être plus réceptif. J'ai eu l'impression que ça dépendait des cours.
C'est ce qui se dit. En tout cas, moi, la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'est le procès qui a eu lieu au mois de novembre. Des policiers qui ont tiré lors d'une manifestation à Montreuil le 13 juillet 2009. Et donc, il y avait plusieurs policiers de la BAC qui étaient jugés pour des tirs de flashball, dont l'un de ces tirs a éborgné un camarade, et les autres tirs ont blessé d'autres personnes. Il a été dit que le tribunal de Bobigny était éventuellement plus réceptif à des plaintes contre la police. Ce qui est sûr, c'est que ça a été une tribune. C'est peut-être une des choses qu'on peut nommer, parce que tout à l'heure, on disait qu'est-ce que ça peut être rendre justice. Rendre justice, c'est aussi la possibilité de se faire entendre, de faire entendre la vérité et d'avoir une tribune. Et on se demandait c'est quoi qui est juste ou quoi. Là, la question, elle n'est pas là. La question, elle est que c'est des justices à deux vitesses et qu'il y a une impunité compte tenu des faits qui, de tous les faits qui pourraient être reprochés dans les différentes histoires. Là, en l'occurrence, pour le procès de novembre dernier, donc c'était en novembre 2016, même si c'était à Bobigny, c'est des peines de sursis qui ont été prononcées. Et l'avocat des flics a indiqué que, compte tenu du fait qu'il y avait du sursis dépassant 12 mois, ça impliquait un jugement interne à la police et qui pouvait relever de ses fonctions l'un de ses agents. Et donc ils allaient faire appel, quoi qu'il arrive. Et c'est souvent le cas. Je ne sais pas si on parle encore un petit peu de la justice ou de comment ça peut se passer, mais...
Si vous voulez, il y a effectivement... C'est une énorme conversation. C'est pas une énorme conversation, c'est un énorme sujet qui relève de bien des questions. Peut-être qu'on peut... Avant de revenir peut-être sur ce que c'est qu'un ordre policier raciste et comment c'est institué, comment est instituée une police raciste, soit on peut embrayer là-dessus, soit on peut parler plus précisément de vous. Et du coup, d'autres exactions, d'autres excès, hein, excès au sens de violence et de démesure policière, qui serait commis donc dans d'autres contextes, et là, dans le contexte plutôt des luttes sociales.
Riri.
Alors, voilà, on a évoqué tout à l'heure l'affaire Rémi Fraisse, donc là, ça correspond effectivement à quelqu'un qui est militant. On a parlé là de militants aussi éborgnés lors d'une manifestation, donc ça, c'était donc à Montreuil. On a autour de nous et sur le plateau de Mille Vaches, c'est pas quelque chose qui se passe ailleurs, des petits camarades qui ont été touchés par des grenades et mutilés aussi, donc c'est quelque chose qui est pas complètement étranger. Après, comme on dit, il y a vraiment deux réalités, et notre réalité de petits blancs campagnards, c'est pas la même que celle de ceux des quartiers, et donc c'est... Et c'est bien ça qu'on voudrait rappeler. Donc c'est bien la question, nous, comment on s'y rapporte. Alors on peut se focaliser sur nous, comment ça nous touche, mais de la même façon, tant que ça n'est pas touché dans notre chair, je pense qu'on ne se rend pas compte. Après, pourquoi nous, on s'y retrouve. Peut-être là, on peut reprendre en fait un appel qui a été fait, qui a été lancé depuis les territoires en lutte, donc là, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et de Bure, donc à soutenir et rejoindre la marche pour la justice et la dignité. Et qui illustre bien ça, qui est bien dit, donc on va juste le lire. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, nos luttes nous exposent bien à une répression grandissante, que l'état d'urgence vient également faciliter, mais nous risquons bien moins nos vies, et si c'est le cas, ce n'est pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous faisons. Et donc, si nous luttons contre ce monde pour en finir avec les systèmes d'oppression, et cela implique d'abattre le racisme en soutenant l'organisation des premiers et premières concernées. Donc les premiers et premières concernées, c'est bien là la parole qui vient des quartiers. Et non pas pour les aider, mais parce que nos libérations sont liées. Et voilà, et bien penser qu'on vient en soutien de cette parole qui vient là. Et c'est aussi peut-être ce qui est touchant et qui change un peu nos petites pratiques à nous dans les milieux où on peut naviguer. Là, il y a un appel qui vient directement des quartiers. Voilà.
Je crois que c'est important. En tout cas, c'est très bien dit dans ce texte-là. C'est effectivement, les choses sont liées. C'est-à-dire l'armement dit non l'état de la police se retrouve tant dans, on va dire, la mise au pas des quartiers populaires que dans celle de certaines manifestations. Donc là, les lanceurs de balles, ceux qui mutilent. Mais effectivement, comme le dit le texte, c'est quand, par exemple, je vais à une manifestation ou quelqu'un d'autre, c'est si on reçoit une grenade de désencerclement ou un LBD, c'est parce que nous faisons, c'est parce qu'on vient militer. C'est pas qu'on le mérite, hein, absolument pas. Quand on habite un quartier populaire, c'est juste parce qu'on est. On est de couleur ou on est stigmatisé habitant une tour, donc étant une classe populaire, dite dangereuse, comme le disent certains sociologues. Et C'est ce qui fait bien la différence, mais c'est ce qui nous lie aussi dans ce que nos libérations sont liées, comme disait Riri, et que ce qu'on laisse faire se retourne. Laisser l'état d'urgence, quand le pouvoir dit état d'urgence, c'est pour lutter contre le terrorisme, on sait très bien que l'arsenal législatif et les nouveaux assouplissements sur le port d'armes ou sur les nouvelles armes se retournent contre ceux qui voudraient contester un tant soit peu l'ordre établi. Qu'on habite les quartiers populaires, qu'on se dise militant.
Et pour aller dans ce sens-là, donc c'est aussi pas pour dire que la répression sur les militants ou les manifestations vient après les quartiers populaires, ça fonctionne ensemble. Et les derniers mouvements, les mouvements du printemps d'il y a un an, démarrés contre la loi El Khomri, il est dit partout que la violence policière, elle a monté d'un cran. Il y a eu énormément de blessés, énormément de mutilés à l'intérieur des manifestations. Et voilà.
Mais j'ai une question. Est-ce que vous seriez des islamo-gauchistes?
Ça veut dire quoi?
Ouais, ça, c'est la case dans laquelle question. On veut t'enfermer pour discréditer toute position qui viendrait en soutien des quartiers et avec une
et des
tendance
luttes sociales.
Et des luttes sociales. Ouais. Donc,
c'est un terme que j'entends depuis peu de temps.
Et beaucoup.
Et beaucoup dans la bouche des politiques. Je peux inviter les auditeurs à aller lire un article sur Mediapart, un article qui parle de Caroline Fourest. Donc apparemment, c'est elle qui est à l'origine de ce terme-là, islamo-gauchiste. Et à la lecture de cet article, j'ai pensé à un autre article que j'ai lu également sur Mediapart, qui est donc... mais je pense que vous pouvez voir, lire d'autres choses sur, de cet auteur, donc Mathieu Régouste, ailleurs, qui, lui, parlait de... Il fait une certaine histoire de la police et d'une certaine forme de la police. Et...
La généalogie du maintien de l'ordre.
Ouais. La généalogie du maintien de l'ordre, c'est excessivement intéressant. Et donc ça part de comment on contient une population dite indigène à l'époque dans les colonies, en l'occurrence l'Algérie. Comment on fait de la coercition sur cette population. Et puis petit à petit donc des luttes de décolonisation. Cette police-là revient en métropole. En métropole aussi, il y a des Algériens qu'on vient de contenir, mais il y a aussi peut-être des communistes ou d'autres militants qui luttent avec ces Algériens. Comment cette police coloniale change de nom, mais on met les mêmes hommes dans un autre corps, et ainsi de suite, jusqu'à en fait la création de la BAC. Et de cet article-là, je me suis dit, tiens, mais voilà donc en fait l'origine de ces islamo-gauchistes.
Il faudrait, je pense, qu'on ait plus de temps, et ce ne sera pas le cas là, je pense, ce soir, pour effectivement soit refaire l'histoire de, pas l'histoire de la police, mais en tout cas la forme la plus voyante et agressive, la BAC, celle qui défraie la chronique, mais il n'y a pas qu'elle, et après sur le qualificatif.
Oui, ouais. Si tu l'avais jamais entendu, qu'est-ce que... Je sais pas, si tu veux réagir à ce terme qui est extrêmement...
Bah après, c'est peut-être ce qui est en deux mots, si on essaye de faire répondre à cette question en deux mots, c'est-à-dire dire qu'il y a une généalogie du maintien de l'ordre qui vient de la contre-insurrection en fait des colonies, donc de notre pays colonisateur, qui a eu du coup... une immigration qui a été importante due à ça, et du coup comment on tient les personnes venant de l'immigration, voilà. Dire qu'il y a cette généalogie là ne dit pas que on va défendre le Daesh ou ça. C'est ce raccourci là qui est fait, qui est complètement hallucinant,
voilà. Clairement, et qui vise à décrédibiliser en fait n'importe quelle lutte.
Complètement, et en même temps on peut aller plus loin en disant effectivement l'engagement qu'il y a pour Daesh, elle peut venir de cette colère là. Après, c'est pas la nôtre, on est bien clair.
Euh... Oui, je reprends la parole pour essayer de dire quelque chose.
Je t'en prie, Fifi.
Pas pour rien dire.
T'es sûr?
Je voulais revenir à un moment donné sur... j'avais cité un bouquin qui s'appelle « Permis de tuer, chronique de l'impunité policière ». C'est que tant que, en fait, pour revenir à notre sujet, qui est qui a une manifestation ce dimanche à Paris à l'appel des familles de personnes tuées par la police, donc la marche pour la justice et la dignité, il y a une famille, il y a 10 ans, une mère de famille qui a dit, mais en fait, à la suite de l'acquittement du policier qui avait tué son fils, qui a dit, mais en fait, il y a un permis de tuer ici en France. Et effectivement, tant qu'il y aura, comme on l'a dit, les chiffres qu'on a sortis, qu'une infime partie des policiers qui seront jugés et jugés coupables, et qui feront, où il y aura une forme de réparation, qu'on parle de punition, d'emprisonnement, là, ce sera un autre débat, mais en tout cas, tant qu'il n'y aura pas de condamnation, ou quasi pas, qui aura une forme d'impunité policière, il est permis de dire, et plus que permis, qu'il y a une tolérance du pouvoir, qu'il y a un permis de tuer pour les policiers. Et en fait, effectivement, c'est dur de le dire. Enfin, c'est dur de le dire. C'est dur de l'entendre, parce qu'on n'entend pas ça tous les jours, et ce n'est pas le propos qu'on a dans les médias. Mais quand on regarde qu'il y a plus de 10 morts par an, de personnes qui meurent sous soit les balles de la police, soit par des techniques de pillage, enfin, en tout cas des techniques de contrainte, c'est pas normal. Il y a eu une doctrine qui a été faite par le pouvoir à la suite, en 1986, suite à une manifestation, en tout cas un mort dans une manifestation qui s'appelait Malik Oussekine. Le pouvoir a dit « ça nous coûte trop cher qu'il y ait un mort dans le cadre d'une manifestation ». Donc depuis, ils ont échoué depuis, hein, mais pendant 30 ans, il ne s'est pas passé de mort dans le cadre du maintien de l'ordre de mouvements sociaux.
Presque 30 ans.
Presque 30 ans. Ça a tenu jusqu'en 2014. Donc les choses changent peut-être. Mais pendant ce temps-là, en fait, le pouvoir, donc nos gouvernements, des gens que certains d'entre nous peuvent élire, on va dire, tolèrent le fait qu'il y ait 10 morts par an dans le maintien de l'ordre dans certaines réalités sociales et là, dans les banlieues, dans les quartiers.
Par rapport à, juste par rapport à la période particulière, je veux dire un mot que, en tout cas pour moi, pour nous sans doute, les pouvoirs de quelque côté qui se réclament, surtout en période électorale, avant une présidentielle, peuvent pas se permettre de mettre un quelconque syndicat de police à dos. Et la police, dont la BAC... Enfin, cet ordre policier qu'on essaye un petit peu de décrire fonctionnera avec n'importe lequel des pouvoirs. Et je pense que le quinquennat de Hollande a largement prouvé cette chose-là. Et juste, ça n'a rien à voir, j'ai pas de transition, mais...
Est-ce que je peux juste faire par rapport à la période qu'on vit, donc celle de l'état d'urgence, pour revenir à cette histoire du permis de tuer, c'est vrai qu'on parle jamais de permis de tuer, et que c'est vraiment paradoxal, étant donné qu'en ce moment, la police a juste le permis de tirer. Et effectivement, c'est étrange de se dire qu'ils peuvent avoir le permis de tirer sans se dire qu'après, il y a forcément permis de blesser ou permis de tuer. Et voilà. Fin...
Et en plus, il faut rajouter que là, très récemment, alors on avait le détail quelque part, je crois que c'est dans l'appel de la ZAD. En fait, très récemment, là, la loi a assoupli l'usage des armes pour la police et grosso modo l'a aligné sur l'usage que peuvent en avoir les gendarmes, donc dans un cadre militaire. Ce qui est quand même sacrément scandaleux, quoi. Compte tenu des dernières actualités. Ouais, c'est absolument scandaleux. C'est quoi le pouvoir et les leviers qu'on possède, quoi.
C'est ce que tu disais tout à l'heure, Loulou, c'est que le pouvoir, en tout cas, doit donner des gages à un pouvoir au sein du pouvoir, qui est certains syndicats de policiers, en tout cas des syndicats de policiers, qui réclamaient effectivement plus de marge de manœuvre encore.
Et très concrètement, et donc ça a fait débat aussi dans l'actualité encore récemment, sur l'instauration, enfin ce qu'ils demandent eux, l'instauration de la présomption de légitime défense. raison. Donc, ce qui est normalement quelque chose qu'on doit prouver, c'est-à-dire qu'on était en état de légitime défense sous des conditions bien précises, là, il y aurait une présomption à l'avance de légitime défense pour les policiers. Sachant que les affaires dont on parle, il y a des mecs qui se font tirer dans le dos. Et très clairement, la légitime défense, c'est quand il n'y a aucune autre manière de pouvoir sauver sa peau, quoi. Donc, quand tu as une voiture qui part dans l'autre sens, un mec qui court dans l'autre sens, l'autopsie révèle qu'il a été tué de balles dans le dos, on peut pas parler de légitime défense. C'est pas
après
possible.
Pour moi, clairement, ce qui apparaît avec cette loi, c'est qu'il légifère sur un état de fait, c'est-à-dire que c'est presque comme s'il simplifiait les procédures pénales, quoi. C'est tellement pénible de devoir prouver ci ou ça, alors que de toute façon, la plupart du temps, les flics vont se faire blanchir. Là, on légifère sur un truc qui pourrait nous permettre, permettre à la justice d'aller un petit peu plus vite dans le fait de les blanchir, quoi.
Ça montre juste là où on en est du débat. C'est-à-dire que là, on n'en est pas à déconstruire le rôle de la police, comment ça se passe ou quoi. C'est qu'on est vraiment dans l'autre sens, quoi.
Il y a des choses, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, et c'est tant mieux. Qu'on puisse avoir cet espace-là. Sans doute, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, nous, là, on a un peu étudié la question. Il y a des bouquins qu'on peut tenir à disposition qui mettent ces mots, ces stats, etc. En tout cas, on pourra faire relayer. Parce que communément, on pourrait penser que, en fait, mais non, mais un policier qui tire, il a voulu se défendre, ou que la personne, elle n'a pas voulu se laisser arrêter, quel que soit le motif, etc. En fait, c'est pas ça le propos. C'est, de toute façon, comme on disait, la peine de mort est abolie. Enfin, on pourrait penser que la peine de mort est abolie, sauf que non. En fait, dans des cas toujours les mêmes, il y a des morts suite à des interpellations policières. Et qui ne sont pas, dans les cas jugés, quand ils sont jugés, qui ne sont pas la légitime défense. Du coup, on ne peut pas se réfugier derrière ça, se rassurer en se disant « Mais non, mais peut-être qu'il y avait des circonstances atténuantes sur le fait qu'il y ait eu un tir de la police ou qu'il y ait une clé d'étranglement. » Non, en fait, c'est systémique. C'est-à-dire que ce sont des pratiques quotidiennes qui, chaque mois, dérapent, effectivement, mais qu'on laisse déraper. C'est-à-dire que si ça dérape, c'est que c'est permis. Ça fait partie, c'est fonctionnel. L'erreur est dans le système, voilà.
On disait bien, enfin là c'est repris dans une brochure là, qui a été faite il y a quelques années par la revue Z, qui disait que l'enjeu de ces mobilisations, donc telles que celles de dimanche à venir là...
Oui, parce que c'est pas la première marche dans l'histoire de France contre les violences policières.
Non, et en effet. Et l'enjeu de ces mobilisations, donc c'était repris dans cette brochure, donc c'est faire reconnaître les mal nommés bavures, donc qui serait un accident de la procédure, comme étant bel et bien des crimes racistes, sécuritaires et systémiques, inhérents au système du maintien d'ordre, aboutissement logique d'un harcèlement quotidien, d'un état d'exception dans les quartiers. Donc c'est bien de briser ce mur du silence et d'appeler les choses par leur vrai nom.
Est-ce que déjà, il nous reste peu de temps, il y a certainement encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous parliez des livres tout à l'heure, donc il y avait le permis de tuer, est-ce que vous auriez d'autres références à proposer à nos auditeurs ?
Alors, j'ai sous les yeux, donc, « Rengainé, on arrive », donc, « Chronique des luttes contre les crimes racistes ou sécuritaires, contre la AGRA », donc, on a nommé tout à l'heure « policière et judiciaire », des années 1970 à aujourd'hui. Donc là, c'est l'auteur, c'est Moknis Abdallah. Donc, « Rengainé, on arrive », aux éditions Libertalia.
Là, on a parlé aussi de « Permis de tuer, chronique de l'impunité policière », aux éditions Sileps, ça, qui date de je ne sais pas quand. De
2014. Il y a des sites internet, donc là, parce qu'on n'a pas parlé de comment, en fait, des familles ou des soutiens se mobilisent pour faire advenir une justice, ou en tout cas réclamer une forme de vérité sur ce qui se passe quand il y a un décès. Il y a des comités vérité-justice qui sont organisés parfois dans des villes quand il y a une affaire comme ça. Et il y a un site qui rassemble certaines de ces luttes, de ces comités vérité-justice. L'un d'entre eux, des sites internet, s'appelle Urgence Notre Police Assassine, qui est animé par quelqu'un qu'on voit souvent et qui mène bien cette lutte-là, et qu'on verra ce dimanche, c'est Amal Bentounsi, qui
avocat.
Est
la...
Non, elle, c'est la sœur de quelqu'un qui s'est fait abattre dans le dos, on en parlait tout à l'heure, en 2012 à Noisy-le-Sec.
Et qui était soi-disant armée, et etc.
J'ai pas suivi l'affaire précisément. Comme ressource,
En petite brochure, il y a donc de la revue Z, donc revue itinérante d'enquête et de critique sociale. Issue de cette brochure, cette revue, il y a cette brochure. Ceci n'est pas une bavure, crime policier et lutte contre le permis de tuer, qui résume bien tout ça et qu'on peut trouver sur le site zite.fr, donc zite.fr.
Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais...
10 minutes.
Ah bah ça va.
on va dire 8 minutes.
Non, moi je voulais... je pensais qu'il nous restait beaucoup moins de temps, mais je voulais rebondir et puis peut-être insister un petit peu lourdement sur le fait que, donc effectivement, ce n'est pas des excès de la police, c'est bien...
Le mot du dictionnaire, bravo.
C'est mon petit côté dictionnaire. Mais c'est bien des pratiques quotidiennes et donc normales, dans leur fonctionnement, comme nous le disait Riri, que c'est donc pas des bavures. Et que là où je voulais en venir, c'était que, aussi une manière de dire, je pense qu'on est nombreuses, soit parce que. On est arabe, noir, soit parce que on est militant, soit parce qu'on est pauvre, soit parce qu'on n'habite pas dans le bon endroit, etc., à avoir pris l'habitude de se sentir en danger à côté de la police. Et que un des enjeux aussi de marches comme celle-là, c'est de reprendre un petit peu de force. Et je crois que c'est des... C'est ce dont témoignent beaucoup les familles des personnes qui sont mortes et puis d'autres collectifs de soutien ou de lutte contre les violences policières, c'est que ça soit dans le quotidien ou à l'intérieur des très longues batailles judiciaires qui se mettent en place et qui demandent énormément de patience, de courage, de prise sur soi, etc. C'est des moments où on retrouve aussi un petit peu de force. Et où il y a de la solidarité en acte qui peut un petit peu se faire, et que voilà, l'enjeu c'est pas simplement de dénoncer cet ordre policier qui est scandaleux, c'est aussi de se dire en face de ça comment on se serre les coudes. Et donc c'est pour ça aussi que c'était important de rappeler d'où on vient, qui est touché en premier et comment, et remettre un peu ces pendules là à l'heure.
Peut-être si on a du coup 2-3 minutes, on peut aussi enfoncer le clou. C'est-à-dire que là, l'enjeu, donc on disait des mobilisations, il est bien de briser le silence, de retrouver de la force. Il n'est pas de demander une bonne police, une meilleure police, parce que ça peut être la revendication de certains, c'est pas nécessairement la nôtre. Donc là, c'est un peu aller plus loin. Il y a aux États-Unis où là les populations noires, qui connaissent. Donc on a entendu parler dans les médias de Black Lives Matter et donc de populations qui font face à des violences policières et à des crimes policiers. Donc aussi des gens qui meurent sous les coups de la police, y a des mouvements abolitionnistes donc qui demandent l'abolition de la police. Donc ça, c'est juste des choses auxquelles on n'entend jamais parler. Et donc, puisqu'on était en train de parler de...
Il y a aussi les abolitionnistes pour la prison.
Voilà, ça reprend effectivement ce courant-là, mais là, en parlant pas seulement de la prison, mais de la police. Et donc, puisqu'on parlait de publication, il y a dans un numéro de Jeff Clack un article qui reprend un peu les choses en cours sur ces histoires-là et qui raconte 2-3 trucs là-dessus. Donc, pour aller plus loin, on peut inviter à aller regarder ça aussi.
Il y a, quand on parlait, pour rebondir aussi, enfin un petit peu à côté, mais pas tout à fait à côté, sur le fait de vouloir réclamer justice. Loulou l'avait bien expliqué, ce qu'on met derrière le mot justice, c'est-à-dire mettre la lumière, en tout cas faire que ce soit reconnu. Après, appeler à la répression, par exemple, de cette pratique-là, donc... C'est donc c'est souvent un individu qui est devant des juges. Et donc, appeler à la répression d'un individu, c'est individualiser le comportement et c'est masquer en fait le problème, comment on dit, général, structurel. Quotidien, systémique, du fait que c'est seulement certaines classes sociales ou seulement certains endroits en France qui sont soumis à l'arbitraire des pratiques policières. Et du coup, effectivement, il faut que tout à chacun soit responsable de ses actes. Et d'autant plus quand t'es flic dit représentant de la loi et de l'ordre ou dit là pour assurer la sécurité des citoyens. Mais ne faire que appeler à la répression d'un policier ou d'une petite équipe de policiers, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Voilà. Et après, c'est un combat de longue haleine, mais en tout cas, il faut...
J'ai envie de... Là, c'est le moment où je trouve que c'est infiniment complexe, dans la mesure où on entend des policiers, par exemple, je sais pas, des policiers syndiqués, CGT, qui disent que voilà, c'est pas le cas de tout. Tous les policiers ne rentrent pas dans ces pratiques-là, que la preuve, y en a eu un quand même dans le commissariat où était emmené Théo Louaka pour se dire « Non, là, ça suffit, on l'emmène à l'hôpital. » Et donc, il y a comme ça des exceptions qui je ne sais pas ce qu'elles font d'ailleurs, enfin, elles font en sorte qu'à un moment donné, il y en ait qui arrivent à l'hôpital. Je vais vous dire un truc, j'ai perdu mon fil.
Oui, toutes les personnes qui revêtent l'habit de policier n'agissent pas tout à fait de la même manière, avec les mêmes ordres. Certes,
C'était un truc un peu ouais. C'était peut-être quelque chose de ça, mais peut-être que j'étais pas suffisamment convaincue par ce que j'allais dire pour persister. Ah là là. Bah, je suis désolée, chers invités, chers auditeurs.
L'heure nous échappe.
L'heure nous échappe, mais je vous en prie, continuez.
Non, mais on peut redire, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'était ce qu'on est bien en train de dire. Il ne s'agit pas de juger seulement des individus, mais c'est bien un système là dont on fait le procès. Donc après, de savoir...
Ah oui, tout... c'est ça.
Ah voilà, tu vois.
Merci beaucoup. Parce que du coup, on parlait de ça. On parlait du fait que ce soit un système policier. A priori, tous les policiers ne font pas partie de ce système-là. Il faut croire qu'il y a plusieurs systèmes policiers. De la même manière, nous ne sommes pas, nous, des jeunes issus de l'immigration à la 3e, 4e génération, bref, français coloré, vivant dans des quartiers populaires. Et pour autant, on a conscience de cette réalité-là, que nous ne vivons pas, mais que d'autres vivent. Il y a aussi... quand j'entends dans des choses dans les médias, des gens qui diront bah, qui n'ont absolument pas conscience de cette autre réalité. Comme on peut complètement effacer le fait que certains policiers ne rentrent pas dans ces pratiques ultra-violentes, comment faire en sorte que toute la société ait conscience de cette réalité qui moi parfois me terrifie parce que j'ai l'impression de vivre dans un état d'apartheid ou un endroit où des choses absolument terribles arrivent mais encore pire pourraient arriver, bref. Donc voilà, c'était une question un peu comme ça, ce qui est pas vraiment une question. Est-ce que vous voyez où je veux?
Oui, mais enfin, j'ai l'impression que ça reprend un petit peu les liens logiques et nécessaires qui lient la police, enfin le pouvoir d'État gestionnaire, la police, la justice et les médias. Et que et en fait, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'au même moment où les médias vont transporter des images de la police, assez positives, comme une force de protection, etc., au même moment, la justice, dans le cas de violences policières, va isoler un policier plutôt que de mettre au jour le caractère systématique et en équipe de ce genre de pratique. Au même moment, les médias vont faire un matraquage, et vraiment c'est une constante quand on lit les textes d'études sur les violences racistes de la police, c'est cette constante des médias dès l'instant où c'est un petit peu mis en lumière, je sais pas, que machin a été tué par la police dans son quartier, que Bidule a eu un accident de la route qui en fait s'est fait parchoquer par une voiture de police, en fait au même instant assez vite les médias réagissent en disant il était connu des services de police, en disant ci et ça. En fait on en est arrivé à un point où le simple fait de dire qu'il était issu de l'immigration ou qu'il ait un nom à consonance arabe, déjà ça impliquerait qu'il serait un semi-délinquant, et on en est arrivé à un point de... Ouais, de matraquage médiatique, de représentation transportée par les médias, qui font que, pour le moment, l'offensive qu'il faut que nous on mène, elle peut être vraiment très forte, parce que avant de se mettre au niveau, il y a du boulot, quoi.
Il nous reste 2 minutes, parce qu'à la radio, on a aussi le pouvoir de remonter le temps, hein, grâce à l'horloge modifiable sur l'ordinateur. 2 minutes, c'est juste le temps pour dire peut-être, rappeler à quelle heure et d'où part la marche dimanche à Paris. Le bus est complet. Vous partez à combien ?
Y a peut-être beaucoup d'autres gens qui vont partir depuis Limousin pour se rendre à cette manifestation. En tout cas, de bouche à oreille, en tout cas, ou pour remplir un bus, on sera... plus de 60 à s'être mobilisés pour monter. Et c'est donc à 14h, ça part de la place de la Nation à Paris, ça passe par Bastille et ça arrive jusqu'à République. Ça va être une grosse manifestation. Il y en a eu déjà d'autres sur ces mots d'ordre, mais effectivement, parce que une affaire a défrayé la chronique très récemment, et qu'il y a encore des mobilisations là à Paris, dans les lycées, ou des tentatives de rassemblement depuis.
Et d'autres affaires sont en cours en plus.
Il y a une certaine actualité, enfin, il y a d'autant plus une actualité autour de cet ordre policier et de la justice qu'on réclame sur certaines affaires. Et du coup, il y a beaucoup de gens vont se rendre à cette manifestation et se ranger derrière les familles de personnes tuées par la police.
Est-ce qu'il y a un rendez-vous aussi, et le bus est complet ? Est-ce qu'il y a un rendez-vous aussi, ouais, de covoiturage pour...
On a entendu dire qu'il fallait arriver à 7h du matin à Limoges, sur le parking du McDo, qui est situé près du four des Cassos. Donc à 7h du matin à Limoges, au McDo dit des Cassos. Voilà ce qu'on a entendu.
Et enfin, j'y comprends rien moi, mais il semblerait qu'il y a un Facebook qui s'appelle Marche pour la justice et pour la dignité. Et que pour toutes celles et tous ceux qui veulent lire l'appel à cette marche, il est très bien.
Et on peut le trouver, ouais, sur Mediapart, je crois aussi. En tout cas, bah, tu tapes Marche pour la dignité et tu tombes dessus sur Internet.
Je vous remercie beaucoup, Riri, Fifi et Loulou. Je vous souhaite de revenir plus fort et indemne. Et voilà, merci beaucoup d'être venu ce soir.
Merci.
Merci.